père Pierre-Marie Castaignos. Bonjour.
Bonjour Sandra.
Alors, un petit rappel pour nos auditeurs, vous êtes notamment l'auteur de deux ouvrages, Est-ce lui, est-ce elle, et Se marier et durer. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'engagement, et puis nous verrons également les difficultés à s'engager. Est-ce que vous pouvez peut-être, avant de parler de ce thème, vous représenter en quelques mots pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu l'émission précédente ?
Oui, bien sûr. Donc, je suis le père Pierre-Marie Castaignos, j'ai 62 ans. Et depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années, je me dédie à la question des couples par la préparation au mariage, donc l'écriture d'ouvrages, mais aussi la prédication de retraite. Je me suis formé de 2015 à 2019 comme thérapeute de couple. Et donc, cette question du couple m'occupe mes réflexions, mon ministère de prêtre. Depuis déjà pratiquement, oui, un peu plus d'une vingtaine d'années même. Donc, du coup, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis appartenu à la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie qui se trouve à l'abbaye d'Ourscamp, bien loin de cette chère terre du Var où vous êtes. Donc, c'est dans l'Oise, au nord de Paris. Et notre communauté a une vocation à la fois mariale et eucharistique. Et puis dédié essentiellement à l'évangélisation, à la formation spirituelle des jeunes.
Alors, venons-en à notre thème d'aujourd'hui. Nous vivons dans une société du tout jetable. On connaissait les mouchoirs jetables, maintenant on connaît les masques jetables. Et dans certains domaines professionnels, on a même l'impression que l'humain est jetable. Mmh. Alors, pourquoi s'engager ?
Oui, tout à fait. La question de l'engagement et la position de l'Église de ce point de vue-là, et du Christ hein, par rapport au mariage, c'est justement rentrer dans un couple durable. On parle beaucoup avec l'écologie, du développement durable, etc. etc. J'allais dire, le mariage tel que le conçoit l'Église fait partie d'une écologie intégrale. Et le fait de s'engager à vie avec une personne, c'est précisément aussi le fait d'accepter d'une certaine manière, de marcher ensemble et de même aussi que le respect de la nature demande aussi une certaine humilité par rapport à celle-ci. Du coup, je trouve ça intéressant de voir cette notion de couple durable qui trouve d'autres échos dans d'autres domaines. Et alors, pourquoi s'engager ? Alors, on peut se poser la question parce qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, peut-être les statistiques ont évolué, mais les dernières que j'avais en ma possession, c'était que 66% des enfants naissent hors mariage civil. Et du coup, moi, ça me pose une question. Alors, ils sont pratiquement toujours reconnus, hein, sauf cas exception par le père, parce que vous savez que le mariage fait que je donne une structure pour l'enfant. Le mariage civil comme le mariage religieux donne une structure pour l'enfant, ce qui fait que le père il est automatiquement reconnu par le père, alors que s'il n'y a pas eu de mariage civil, il faut faire une démarche personnelle. Mais ça me pose d'autres questions. Je me dis, tiens, aujourd'hui, le couple se voit plus comme un couple parental que comme un couple matrimonial. Et ce n'est pas du tout pareil. C'est le couple parental, donc ils se voient couple parce qu'ils ont un enfant. Et donc, le risque, ça peut être aussi anxiogène de dire « on est ensemble parce qu'on a un enfant ». Donc, l'enfant devient le ciment du couple et non pas la parole qu'ils se sont donnée, un couple matrimonial, c'est-à-dire un couple qui se fonde sur une parole donnée. Et c'est intéressant de réfléchir là-dessus, de dire qu'au commencement de tout, il y a une parole. Hein, au commencement de la Bible, et Dieu dit, bien sûr, il y a une parole, mais cette parole au commencement de chaque messe, il y a la liturgie de la parole. Hein, au commencement de l'incarnation, il y a la parole et le Verbe s'est fait chair, la parole qui dit Dieu s'est fait chair. Donc, du coup, c'est cette dimension de parole, peut-être notre société moderne, plus centrée sur l'image que sur la parole, a oublié un peu la force de la parole donnée. Hein, moi, je me souviens, et c'est la force de la parole de Dieu par définition, hein, j'avais vu comme ça les témoignages de gens qui allaient dans les camps de la mort, etc., et qui cousaient justement des morceaux de la parole de Dieu sur leur manteau, de le revers de leur manteau, voilà, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer, alors qu'ils allaient vers les camps de la mort, vous voyez, donc c'est très fort la question de la parole de Dieu, et puis de la parole humaine aussi, la parole humaine qui est dans un cadre sacré, comme le sacrement de mariage. Donc le fait de dire que le mariage, c'est, alors, ce qui est particulier avec le mariage, c'est que c'est le seul sacrement qu'on reçoit à deux. C'est la difficulté du mariage. C'est deux libertés hein, qui doivent cohabiter donc, pendant plusieurs années, avec l'allongement de la durée de la vie, on se dit à peu près 50 ans de vie matrimoniale. Mais donc, du coup, c'est ce qui est difficile, c'est ça, c'est de dire comment faire coexister deux libertés, deux volontés. C'est ça que ça veut dire. La liberté, c'est la volonté en mouvement. Voilà, c'est et donc de façon à ce qu'elles fassent route ensemble. Mais et à la fois cet engagement, il est important parce que, en tout cas, on a cette notion dans l'Église, dans notre ADN de catholique, on a cette notion de dire que au fond le mariage, comme tout dans l'Église, le mariage est profondément personnel, mais il n'est pas solitaire. L'engagement que je porte dans le mariage, embarque d'autres, embarque mes amis, embarque ma famille, embarque les actuels ou les futurs enfants, embarque aussi ma paroisse, voilà, embarque ma vie spirituelle, embarque Dieu d'une certaine manière. Voilà, c'est très fort de dire que la notion de l'engagement, parce qu'on se dit, mais pourquoi parfois on voit des jeunes qui cohabitent, etc. Mais pour me rappelle d'une jeune fille qui disait, mais oui, moi j'aimerais bien avoir qu'on se marie, etc. Elle lui disait, non, ben non, on est bien, on est juste bien comme ça. On est juste bien comme ça. Pourquoi tu te casses la tête? On est bien, on a un bon niveau de vie, un bon métier, on a des loisirs, etc. Voilà. Mais la position du disciple de Jésus n'est pas du tout celle-ci. C'est pas juste qu'on est bien, c'est que la logique de don à laquelle répond l'amour demande une parole. Et donc, du coup, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de dire que au commencement est la parole, aussi dans le couple. Et un couple qui publiquement, parce qu'il y a cette notion de public, qui publiquement s'engage devant d'autres, ça les soutient, parce que si je n'ai prononcé aucune parole, ben évidemment, rien ne m'empêche du jour au lendemain de prendre mes valises et puis de quitter et d'aller ailleurs. Mais la parole, elle engage, et c'est le sens, et singulièrement la parole sacrée, hein, devant l'autel du Seigneur, elle engage. Et du coup, le fait de l'engagement, je trouve que c'est quelque chose qui nous permet justement de nous révéler nous-mêmes, d'exprimer à d'autres notre l'amour que vous pouvez ressentir l'un pour l'autre. Et ce qui fait aussi la grosse différence entre l'amour et le sentiment amoureux. Le sentiment amoureux, de l'ordre de l'émotion, bon, c'est agréable d'être ensemble. L'amour, c'est une volonté. Aimer, c'est vouloir. Vouloir, c'est aimer. Et donc, du coup, c'est cette volonté qui, dans l'engagement, devant l'autel du Seigneur, dans le sacrement du mariage, eh bien, permet de s'exprimer. Tout c'est quelque chose de très beau, justement, le fait de l'engagement. Et de cet engagement-là, de cette parole-là, naissent les enfants. Vous voyez, les enfants s'inscrivent dans une parole qui préexiste à eux. Hein, ils rentrent dans une parole, ils rentrent dans un amour. Hein, ils ne sont pas le ciment de l'amour ou du lien qui unit les parents, non, parce que le couple est d'abord un couple matrimonial avant d'être un couple parental. Donc, c'est intéressant de réfléchir là-dessus, sur cette. À l'heure où peut-être la question de l'engagement est plus difficile, quoique, mais en tout cas l'engagement long terme, certainement. C'est l'engagement long terme, on s'engage dans une association pour un an, on s'engage, voilà, c'est des cours, mais l'engagement long terme, comme le propose l'Église, tant dans la vie sacerdotale que dans la vie matrimoniale, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait la différence par rapport à notre culture.
Alors, En vous écoutant, je pensais à ces couples qui disent oh ben finalement, c'est pourquoi se marier, c'est juste un papier. Peut-être pour ces couples, même si vous avez donné déjà des éléments de réponse, peut-on donner une définition de ce qu'est un engagement?
Alors, l'engagement, oui, on peut donner une définition. L'engagement, c'est à la fois le don de toute la personne humaine. C'est ça qui est important de voir ça. L'engagement, c'est le don de toute la personne humaine, à la fois l'activité de l'intelligence, et on a vu la dernière fois l'importance du discernement. Hein. Est-ce que je suis capable d'assumer? Ai-je les aptitudes? Ai-je le temps? Quoi donner? À qui donner? Avec quelle intensité? Et du coup, avec aussi une réflexion sur la dispersion par rapport à nos engagements. Et le fait, parce qu'on est dans une émission qui parle du couple, le fait de rentrer dans une vie matrimoniale fait que l'engagement de couple va être le va donner le la à toutes à tous les autres engagements qui vont se caler sur cet engagement matrimonial. Donc c'est important cette question de discernement, cette activité de l'intelligence hein, qui discerne. Hein, donc avec une priorité, ça veut dire aussi s'engager, c'est donner une priorité à quelque chose. Et donc du coup cette priorité donnée à la qualité de lien. Hein, qui devra avoir lieu dans la vie de couple. Et puis, l'importance aussi dans l'activité de l'intelligence, de se faire conseiller, hein, de prendre le temps de la délibération, hein, c'est ce qu'on appelle la vertu de prudence. La vertu de prudence, c'est justement celle qui nous pousse à l'action, le discernement pousse à l'action, mais justement, cette vertu de prudence, elle est intéressante parce qu'elle nous dit, ben, n'hésitez pas à demander conseil. Et la grande grâce dans l'Église, c'est qu'on n'est pas seul. La grâce dans l'Église, c'est qu'on n'est pas seul, c'est-à-dire qu'on est accompagné par d'autres. Hein, et donc, du coup, le fait de demander conseil comme un père spirituel ou un aîné dans la foi, de façon générale, je trouve ça quelque chose d'intéressant. Donc, c'est l'activité de l'intelligence, mais c'est l'activité aussi de la volonté. Hein, s'engager, c'est le fruit d'une volonté qui se met en mouvement. Et donc, c'est un acte de liberté. Et là je me permets d'insister là-dessus. C'est que plus je m'engage, plus je suis libre. Oui, c'est exactement le rebours de la manière de penser de nos contemporains. Parce que, évidemment, je suis libre, je n'ai pas d'engagement. Non, nous ne disons pas ça. Nous disons que plus je m'engage, plus je suis libre. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une liberté ? C'est une liberté en mouvement. Et qu'est-ce que c'est l'engagement ? Si ce n'est prouver, justement, que je choisis. Prouver que j'élimine un certain nombre de possibilités pour suivre telle ou telle voie. Et donc, c'est vraiment un acte de liberté. Une liberté qui ne passerait jamais à l'acte, comment serait-elle liberté ? Et le fait de passer à l'acte, c'est précisément s'engager. Et donc, on dit choisir, c'est renoncer. Vous connaissez bien le dicton. Eh bien, c'est pareil pour l'engagement. Le fait de s'engager dans une voie plutôt que dans une autre, c'est quelque chose qui va entraîner un renoncement à d'autres choses. Bah, singulièrement, si je m'engage avec un homme, une femme, dans le mariage, je renonce à des milliards d'autres, potentiellement. Et donc, et je trouve ça quelque chose de très fort. Donc, c'est un acte de liberté hein, et qui me permet de... parce que c'est un acte de la volonté. Hein, donc, et puis, de façon générale, je trouve que c'est l'engagement de toute la personne humaine, avec sa sensibilité, avec son corps, évidemment, hein, dans la vie matrimoniale, l'importance du don intime des époux, hein, les dons naturels, spirituels, que je mets au service de l'autre. Hein, d'une certaine manière, dans l'engagement, j'apprends à donner et à recevoir. Vous voyez, j'apprends à mûrir aussi spirituellement et humainement. Il y a une forme d'immaturité de celui qui ne s'engage pas. À quoi est-ce qu'on devient ? À quoi est-ce qu'on reconnaît que l'autre, que quelqu'un est adulte ? C'est parce que aussi il sait s'engager. L'adulte, c'est celui qui sait porter les autres. Et il y a parfois une forme d'infantilisation ou de certains adultes justement qui n'arrivent pas à passer ce cap-là de porter les autres dans l'engagement, alors que hein, ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan. Hein, c'est justement, je veux rester éternellement jeune, éternellement étudiant, éternellement ceci, etc. Voilà. Et alors que la phase adulte est précisément le fait de passer justement d'être porté par les autres, ce qui est normal quand on est jeune, enfant ou jeune, à porter les autres. Et comment est-ce que je porte les autres si ce n'est dans mon engagement ? Donc, c'est quelque chose. Et l'engagement fait aussi qu'on, dans la vie matrimoniale, fait qu'on se porte l'un l'autre. La parole, je m'appuie sur la parole de Dieu, je m'appuie sur la parole de mon conjoint.
Alors, peut-être une petite précision dans votre livre S-lui, S-elle, vous faites la différence entre relation exclusive et relation privilégiée. Donc, quelle est cette différence et à quoi reconnaît-on une relation exclusive et quels en sont les dangers ?
Alors, oui, la relation exclusive, ce serait que le couple s'enferme sur lui-même d'une certaine manière. Hein, donc, du coup, c'est important, ça veut dire que le fait de s'engager à deux ne veut pas dire qu'on laisse les autres types de relations. Donc, non, c'est pas exclusif dans le sens d'un enfermement, dans le sens de... je crois que ce serait quelque chose qui ne serait pas bon. Hein, donc... en revanche, de dire que c'est une relation évidemment privilégiée, c'est unique dans la vie matrimoniale que l'on vit avec personne d'autre. Hein, le fait d'avoir des enfants avec quelqu'un, ben, en général, c'est avec une personne. Voilà, donc c'est quelque chose de nouveau. Du coup, c'est intéressant de dire que l'engagement, et c'est là où on voit qu'il y a une maturité, l'engagement ouvre à d'autres relations. Vous voyez, c'est pas la porte fermée à d'autres relations, à d'autres amitiés, à d'autres engagements. Parce que j'ai appris, et je pose souvent la question dans la préparation au mariage, j'ai appris, par exemple, par les engagements que j'ai pu avoir associatifs, ou alors au niveau scolaire, au niveau syndical, ou au niveau que sais-je, dans la société civile, j'ai appris ce que ça veut dire m'engager, donner ma parole. Et du coup, c'est important, je pense, par exemple, ou un grand mouvement comme le scoutisme, c'est vraiment le grand lieu d'éducation de la jeunesse, je trouve ça vraiment extraordinaire. Mais justement, il y a cette notion d'engagement, fait sa promesse. Aujourd'hui, je m'engage, le champ de la promesse, vous le connaissez très bien, hein. Aujourd'hui, je m'engage sur mon honneur, voilà. Et je trouve que le fait de dire que des jeunes, pas parce qu'on est enfant, qu'on ne peut pas s'engager, à la mesure de l'enfant, bien sûr, pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas s'engager. Bon, du coup, le fait d'avoir cette pédagogie de don. Oui, c'est ça. C'est l'Église propose une pédagogie de don. Et à travers l'engagement progressif pour arriver à des engagements définitifs, eh bien, c'est quelque chose qui accompagne toute la pédagogie de l'Église, qui invite justement à être attentive à cette capacité de donner et à sa capacité de recevoir.
Alors, quelles sont les difficultés les plus fréquentes à s'engager ?
Alors, souvent, les difficultés, j'en ai listé quelques-unes, mais ces difficultés-là, elles sont souvent liées à des peurs. Premièrement, la peur de ne pas y arriver. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être fidèle. Oui, c'est, je dis, ben non, avec 40% de séparation aujourd'hui dans les couples, et on parle que de ceux qui sont mariés civilement, mais de ceux qui sont, comme on dit, en concubinage, en union libre, etc., c'est beaucoup plus de 40%. Hein, donc, du coup, on se dit, mais est-ce qu'au fond, on finit par douter de soi-même, vous voyez, on doute de soi-même, on doute de on se dit, mais finalement, est-ce qu'on va y arriver ? Il y en a tant qui ont eu des tas de bonnes intentions au départ, puis finalement, sont allés dans le mur, voilà, ont connu des difficultés, voilà. Donc, je pense que c'est la peur de ne pas arriver, de ne pas être à la hauteur, la peur, quelque part, d'une certaine manière, de l'échec. Mais aussi la peur de la pénibilité, parce que c'est vrai que dans l'engagement, et singulièrement l'engagement à vie, dans la vie commune, moi je suis religieux, donc je vis une vie communautaire, une vie fraternelle, dans la vie fraternelle, il y a à porter, se supporter. Donc on se porte les uns les autres et on se supporte aussi les uns les autres. Il y a des moments où on a des passages à vide, que ce soit les frères ou moi, ben voilà, on a des moments difficiles. Donc, le fait qu'on n'accepte plus maintenant la pénibilité, vous voyez, je trouve que ça a à voir aussi avec cette difficulté à s'engager. Ah, parce que la pénibilité, elle fait partie de notre nature humaine, qui est marquée par le péché originel, qui est une nature humaine qui est blessée, hein, rachetée par le Christ. Mais blessée, on a les conséquences, comme on dit, du péché originel, même en étant baptisé. Donc, il y a lieu de combat. Je pense aussi que l'engagement est un lieu de combat spirituel. C'est-à-dire que dans l'engagement, le fait de. Parfois, il y a un combat intérieur. Parce que justement, j'ai peur de souffrir, j'ai peur j'ai quelque chose. D'une certaine manière, on peut dire qu'il y a une part de la croix du Christ apportée dans tout engagement. Même si on imagine bien qu'au début de leur noce, les jeunes épouses sont tout à fait enthousiastes, etc. Mais on voit bien, et on voit bien autour de nous, que ce soit pour les difficultés professionnelles, les difficultés de santé des conjoints ou des enfants, ou de la famille proche, les difficultés relationnelles, dans le couple ou à l'extérieur du couple, ben, il y a une part de la croix que Jésus a portée. Donc je trouve que c'est intéressant parfois cette peur de la croix, cette peur de la difficulté, cette peur de la pénibilité qui est propre à tout, ce qui fait qu'on reste un peu infantile. Vous voyez, c'est une sorte d'immaturité parce qu'on ne va pas jusqu'au bout du don. Vous voyez, donc et puis il y a une autre peur, je trouve, qui est intéressante. C'est la peur de se révéler. Vous savez, le fait de s'engager, c'est se révéler, c'est se dire, c'est se montrer. Hein, et je me découvre en me donnant. Et c'est précisément là la belle pédagogie du don que propose l'Église à travers les différents mouvements de jeunesse, etc. C'est je me découvre en me donnant, en prenant des responsabilités. Hein, et alors forcément, qui dit prendre des responsabilités veut dire aussi faire des mécontents, on ne sera pas d'accord tout le temps, etc. Ben, on le sait très bien au niveau professionnel, on le sait. Et puis dans l'Église, quelque part, il y a un combat qui est encore plus fort. Hein, et donc, ce n'est pas parce qu'on s'engage dans l'Église que c'est rose, ben, certainement pas. Donc, mais justement, je trouve qu'il y a une maturité qui est au rendez-vous au bout de l'engagement, parce que j'ai appris à me révéler, j'ai appris à me découvrir en me donnant. Et puis parfois, ce qui fait parfois difficulté, aussi une autre peur, c'est la peur de la vulnérabilité, hein, ne pas tout contrôler. Il y en a beaucoup qui sont dans le contrôle, par exemple. Peut-être nos auditeurs sont là-dedans. Du coup, ils sont dans le contrôle. Alors forcément, quand vous engagez dans la vie matrimoniale, vous ne contrôlez pas l'autre, parce que sinon, c'est plus un couple, c'est de la manipulation. Donc, par définition, quand vous avez une liberté en face de vous, comme dans la vie de couple, ben, vous ne la contrôlez pas. Et donc, ça vous met en une certaine fragilité, une certaine vulnérabilité, parce que précisément, dans ce couple-là, ben voilà, vous abandonnez à ce qu'aussi une autre volonté va pouvoir décider. Donc, ça qui est compliqué, c'est aussi. Je trouve que le fait de la peur de la vulnérabilité fait que certaines qui sont dans le contrôle ne veulent pas s'engager. Parce qu'ils disent, je vais perdre le contrôle, je vais perdre la main. Mais précisément, c'est parce qu'on accepte de perdre la main, parce qu'on accepte de se donner, etc., qu'on découvre des choses. Vous voyez, c'est cette logique de confiance et d'abandon qui préside à toute la vie chrétienne. Il peut y avoir des peurs liées au corps. Alors ça peut être... peut-être dans le couple c'est moins fort, mais je pensais à la fatigue, le froid, la faim, le manque de sommeil, etc. Voilà, je pense que la place du corps peut être aussi intéressante d'analyser, de revisiter dans l'engagement. Ou la peur de la sexualité, par exemple. Il y a certaines personnes qui ont grandi avec une image, et on en parlera peut-être dans une autre émission, mais d'une sexualité qui est sale, d'une sexualité qui fait peur. Ouais, or, on est dans toutes les parties de notre corps, et même les parties intimes, ben nous sommes à l'image et à l'image de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui est aussi là où il y a à tordre le cou un certain nombre de convictions qui ne sont pas en place. Donc. Et puis, j'ai vu ça, la peur du regard des autres. Parce que singulièrement, quand je choisis un conjoint qui n'est pas le conjoint attendu par mes parents, par exemple, je pense pour des jeunes gens et qui s'engagent dans le mariage, etc. Les parents, quand on est parent, forcément, on a des attentes pour ses enfants, c'est normal. Plus on aime quelqu'un, plus on a des attentes pour lui, c'est tout à fait logique. Mais du coup, quand soi-même, on sait qu'il y a des attentes des parents, mais qu'on choisit un conjoint qui est autre que l'attente des parents, et puis, il peut y avoir une peur du regard des autres. Je n'assume pas, je n'assume pas l'autre face à mes parents. Et ça, à mon avis, si c'est une question comme ça, il faut mettre fin à la relation. Ça me paraît, et je pense en amont du mariage, évidemment, parce que le fait de se marier veut dire que j'assume l'autre par rapport à ma famille. J'assume l'autre qui a peut-être vient d'une autre nationalité, d'un autre milieu social, avec une autre religion, une autre couleur de peau. Voilà, mais je l'assume face à ma famille. Et si quelqu'un, vous êtes dans une relation amoureuse, mais à aucun moment du discernement, alors que vous avez plusieurs années à être ensemble, on vous présente la famille, l'un des deux refuse de présenter sa famille, c'est qu'il n'accepte pas, il n'assume pas la relation. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui ne peut pas continuer. Hein, parce que là, vous n'êtes plus dans le don, on est dans l'utilisation un peu de la personne. Hein. Donc, la peur du regard des autres. Quelque chose que j'ai remarqué, je m'occupe beaucoup de ce qu'on appelle des jeunes professionnels. Les jeunes professionnels, c'est 25-35 ans. Vous voyez, c'est vraiment ça, jeunes professionnels. J'aime beaucoup déjà cette génération, hein, des jeunes professionnels. J'ai beaucoup d'affection pour eux. De cette génération de jeunes qui débutent la vie professionnelle. Et il peut y avoir une tentation justement de garder l'infini des possibles devant soi. Ça veut dire quoi, garder l'infini des possibles devant soi? C'est-à-dire que je peux avoir la tentation de, de fait, le fait de ne pas choisir, et donc comme si c'était un rond-point à 1 000 sorties, et du coup, j'ai la joie d'avoir devant moi 1 000 sorties. Hein. J'ai la joie d'avoir devant moi 1 million, 2 millions potentiellement de femmes, d'hommes avec qui je pourrais me marier. Mais c'est juste l'infini des possibles. Oui, et alors c'est plus un rond-point, je veux dire, c'est un nombril, même ça peut être de la même forme. Et donc du coup, de ce point de vue-là, c'est quelque chose d'intéressant de dire que il faut s'engager, c'est prendre une des sorties de ce rond-point et puis laisser les autres. Hein. Donc la peur de garder l'infini, c'est une tentation, je vois ça comme ça, comme ça. Et puis la condensation du temps. Moi, je vais parler de ça. Je sais pas si on en a parlé dans le livre, mais la condensation du temps. On voit comme l'engagement à vie, forcément, et l'allongement de la durée de la vie fait que pratiquement c'est une cinquantaine d'années de vie matrimoniale à laquelle on s'engage, voire plus quand on est jeune. Eh bien, du coup, on se dit, waouh, 50 ans, 50 ans, mais c'est pas possible. Je veux dire, on voit 50 ans comme un paquet devant soi. 50 ans n'existe pas. Hein? Demain n'existe pas encore, hier n'existe plus. Et qu'est-ce qui existe si ce n'est aujourd'hui? Et vous vous rappelez la très belle phrase de la petite Thérèse, hein, pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui. Et donc c'est d'aujourd'hui en aujourd'hui qu'on dit déjà 10 ans, 10 ans, 20 ans, déjà 30 ans. Hein. Le chrétien, c'est celui qui compte en regardant à l'arrière, en arrière, c'est-à-dire celui qui compte en faisant mémoire. Et donc il n'y a pas les 50 ans devant, c'est toujours derrière. Et donc je trouve que la question de la condensation du temps, fait parfois difficulté à l'engagement. Voilà, et je rajouterai deux difficultés, peut-être. Le perfectionnisme, c'est jamais assez bien. Faut toujours que je travaille quelque chose, je ne suis pas assez prêt. Et l'activisme, c'est-à-dire que je n'ai pas de vie intérieure, je suis dans une troublion d'activité qui m'empêche de voir qu'est-ce qui est essentiel et prioritaire.
Alors, lorsque vous avez parlé de la pénibilité, j'ai pensé au Saint Curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, qui dans un sermon a dit « Le sacrement de mariage est institué pour sanctifier l'union légitime de l'homme et de la femme, pour leur donner la force de supporter les peines que Dieu attache à cet état.
Oui, bien certainement, certainement, parce que le fait de la pénibilité, le sacrement de mariage, certainement, donne la grâce pour vivre ça. Grâce que n'ont pas ceux qui ne s'engagent pas dans le sacrement de mariage, par définition, parce qu'ils ont choisi un autre chemin. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de pénibilité. La vie ensemble, si vous voulez, de façon générale, la vie en société, la vie en communauté, la vie en couple, c'est pas si simple, c'est pas intuitif. Il y a des tas de gens avec lesquels on ne pourrait absolument pas vivre. D'où l'importance dans le discernement, ce qu'on a dit, voilà, la compatibilité des caractères qui est un vrai critère de discernement. Est-ce que je suis amené à vivre avec telle personne, avec telle autre? Donc, du coup, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment à travailler, de se dire que, justement, il y a une pénibilité, il y a une certaine peine liée à cet état de la vie matrimoniale, comme une peine liée à la vie humaine, d'une certaine manière. Mais du coup, j'ai reçu la grâce. Et moi, j'aime bien aussi cette phrase du curé d'Ars, l'homme est un pauvre qui doit tout demander à Dieu. Hein, et je trouve que c'est une très belle phrase parce que j'ai la conviction que le mariage, c'est l'union de deux pauvres. Hein, quel que soit l'état de leur compte bancaire, cette pauvreté, elle n'est pas d'abord financière, vous l'avez compris. Cette pauvreté, elle est d'abord intérieure. C'est pour ça que je suis devant l'autel comme un pauvre, demandant la grâce de vivre une vie commune jusqu'à la fin. Et de vivre une vie commune qui embarque avec moi amis, famille et parents et enfants à naître. Donc du coup, je trouve que c'est quelque chose qui est très beau de voir ça. C'est très fort de dire que oui, il y a une peine qui est liée à l'état de la vie matrimoniale, une pénibilité, on pourrait dire. Il y a une difficulté là, liée à toute vie ensemble. Mais le fait d'être engagé dans la vie de mariage, dans le sacrement, il y a une grâce qui est donnée.
Alors, peut-être une objection justement à s'engager, une difficulté, c'est le cas des enfants de divorcés qui peuvent avoir des difficultés par crainte de reproduire l'histoire de leurs parents.
Oui, alors ça, j'accompagne parfois dans les accompagnements que j'ai, etc. Il y a parfois des enfants de divorcés. Et bon, maintenant, il n'y a pas de fatalité. Je pense peut-être eux, plus que d'autres, sont sensibilisés à cette question de la fidélité, à cette question de la durabilité des couples, du coup, parce qu'eux-mêmes en ont souffert. Alors, soit souffert parce qu'il y avait beaucoup de disputes dans la famille, et malheureusement, parfois, la séparation est comme un soulagement, soit souffert parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à cette séparation, et ça les a fragilisés personnellement. C'est là où je me dis, quelle responsabilité de se marier, quelle responsabilité de faire des enfants. C'est une énorme responsabilité, hein, et je vois la quantité de, on en parle souvent, de ce qu'on appelle famille monoparentale, de ces mamans courage, etc., seules à élever les enfants. C'est-à-dire, bon, on sent que c'est quand même très difficile. Et les blessures liées aux séparations, elles sont aussi au rendez-vous. Donc, et c'est vrai que là-dessus, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux face à l'engagement parce que dans la vie matrimoniale, parce que de ce qu'on a pu recevoir auparavant, eh bien, on n'a pas eu peut-être une construction assez ferme, une confiance en soi, etc. Et il y a des personnes, c'est... Parce que, peut-être par la peur de reproduire aussi, mais juste parce qu'il y a un manque de confiance en soi, il y a une sorte d'indécision, les personnes indécises comme ça, vous voyez, parce qu'il n'y a pas eu en face d'elles aussi une décision ferme de construire un couple. Et c'est là où c'est dire, le couple est d'abord matrimonial avant d'être parental. Et donc, et c'est dans ce couple-là que les enfants se construisent. Mais il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que il n'en demeure pas moins que ce n'est pas parce qu'on est des parents divorcés qu'on va divorcer soi-même. Parce que j'ai eu mon père alcoolique, par exemple, que je vais être alcoolique, ou je ne sais pas quoi, que sais-je. Voilà, le divorce n'est pas un gène et qui se transmet par la génération. Non, certainement pas. Donc, je pense qu'il y a une attention, parce qu'il y a certainement peut-être une fragilité, une petite fragilité qui. En tout cas, c'est important de revisiter. À l'occasion de la préparation au mariage, quand les parents d'un des deux, ou parfois tous les deux, sont issus de familles séparées, voire des personnes aussi, moi je suis accompagné des personnes, dans leur entourage, même les grands-parents étaient séparés. Vous voyez, donc il y avait zéro image de couple stable. C'est une question, et je suis tellement admiratif de ces jeunes-là qui s'engagent dans le mariage. Mais il y a des jeunes qui n'ont pas dans leur entourage, ils n'ont pas d'image de couple stable. Et de ce point de vue-là, c'est parfois, mais ils veulent construire quelque chose. Ce que les catholiques proposent dans l'engagement à vie, dans la vie matrimoniale, beaucoup veulent le vivre. Nous, on a des clés pour le vivre. Hein, c'est ça qui est intéressant. On a des clés pour avancer. On a une pédagogie, on a une préparation, ce que n'ont pas. Moi, j'étais très fan de la préparation. Je suis très fan de la préparation au mariage civil, par exemple. Hein, il y a des associations comme Cap Mariage qui proposent des préparations au mariage civil, précisément pour pouvoir donner des outils à des personnes qui en ont été privées. 80% de ce que je fais dans la préparation au mariage depuis 20 ans, c'est d'abord de revisiter l'humanité des gens. N'oubliez pas ce qu'on appelle, alors j'ai employé peut-être des mots un peu compliqués, mais en théologie, le sacrement de mariage est d'abord une réalité de création avant d'être une réalité de rédemption. Alors ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est d'abord, vous trouvez le mariage dans la nature. L'homme et la femme, vous le trouvez dans la nature. Ils sont créés, c'est de la création. C'est-à-dire que tout ce qui est profondément humain est à revisiter à l'aune de cette préparation au mariage, et bien sûr la grâce de Dieu vient accompagner, vient, mais là comme dit Saint Thomas d'Aquin, la grâce ne remplace pas la nature, elle l'élève, mais elle ne remplace pas la nature, et c'est pas parce que c'est pas magique le mariage, le sacrement de mariage n'est pas magique. Si je n'ai pas revisité mes blessures, si je n'ai pas revisité ce que j'ai pu, voilà, de mon éducation, et donc peut-être prendre l'aide peut-être d'un professionnel qui m'aide, si par exemple je suis colérique, par exemple, imaginons que je suis colérique, etc., mais depuis tout le temps, vous voyez, donc, ou alors j'ai peur de mon ombre, des personnes indécises, donc manque de confiance en elles, mais du coup ça peut être le coup aussi, le mariage, de revisiter l'éducation et l'impact de cette éducation sur ma personnalité.
Père Pierre-Marie Castaignos, peut-être... une question qui conclura peut-être l'ensemble de cette émission. Que répondre aux personnes qui éprouvent des difficultés à s'engager ?
Alors, c'est vrai que parfois, les personnes, par manque de confiance en soi, parce qu'elles ne voient pas le bien fondé de l'engagement, ou par des échecs aussi, je pense, des personnes qui ont rompu leur fiançailles, ont eu des histoires amoureuses compliquées par le passé, disent, ben voilà, qu'est-ce qui va faire que ça va marcher cette fois alors que ça a échoué les fois précédentes. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que nous avons une réponse justement par rapport à ces difficultés de s'engager. Je vois deux réponses. Premièrement, la confiance et deuxièmement, la miséricorde. La confiance, c'est-à-dire, je ne m'engage pas parce que je suis sûr d'y arriver, mais pour y arriver. Oui, c'est intéressant de voir ça. C'est que l'engagement, il est toujours devant. Oui, c'est pour ça que le perfectionniste, parfois, a de la difficulté à s'engager parce que, précisément, il pense que il faut être à la perfection pour accomplir un don de soi-même et donner sa parole. Mais non, on dit on donne sa parole, on sait que nous sommes imparfaits, etc. Moi, je suis religieux, engagé dans la pauvreté, chasteté, obéissance, mais je ne le vis pas parfaitement, je suis en devenir. La conversion, elle est toujours devant, vous voyez, elle n'est pas derrière comme c'était une fois pour toutes. Et donc, la question de la confiance, c'est quelque chose d'important. Et une autre aussi... point important, c'est la miséricorde. C'est-à-dire que même si j'ai été infidèle, même s'il y a eu des moments de loupé dans ma vie, même s'il y a des choses dont je ne suis pas, Dieu lui reste fidèle. Et cette miséricorde, précisément, nous permet de nous engager, nous permet de nous donner sans compter, parce que et d'obtenir des fruits, parce que je trouve que les fruits de l'engagement, c'est précisément les fruits de l'Esprit Saint. Hein, c'est les fruits de l'Esprit Saint. Vous l'avez en Galates 5, 22. Hein, charité, joie, paix, patience, etc. Vous connaissez, continence, maîtrise de soi, voilà, c'est les fruits de l'Esprit Saint. En fait, notre vie porte des fruits parce que justement on accepte de se donner. Et comment se donner si ce n'est l'expression d'un engagement ? Et donc, alors c'est vrai que une autre réponse à ces difficultés peut être l'accueil de ses limites. Ouais, vous voyez, je dis, je suis capable de m'engager jusqu'à telle hauteur, jusqu'à telle, voilà, avec telle, et donc d'accueillir ses propres limites, d'accueillir le manque. Je pense que ça fait partie aussi de cette pédagogie du don.
Alors nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter une information, un message pour les auditeurs de Radio Maria sur notre thème d'aujourd'hui?
Oui, volonté, je trouve que la question de la gratitude, moi j'aimerais peut-être insister là-dessus, sur ces échecs, il y a tout un parcours de gratitude qui existe aussi par ailleurs. Je trouve que c'est important parce que la gratitude, elle est au service de l'engagement, justement. De rendre grâce pour ce qui a été fait, d'avoir un regard peut-être plus positif sur notre vie. Parfois on est peut-être, particulièrement les Français, très avoir le point noir dans la page blanche, vous voyez, et je trouve qu'il y a quelque chose de pas tout à fait juste. Le fait d'être dans la gratitude, d'être dans l'action de grâce, nous permet aussi d'aller de l'avant. Donc c'est un peu ce message final que j'aimerais transmettre aux éditeurs.
Eh bien, merci beaucoup, Père Pierre-Marie Castagnos. Nous vous retrouverons pour une autre émission, Se marier vraiment, et donc avec un autre thème. Merci beaucoup.
Merci, Sandra.
Au revoir.
Au revoir.